Psaume 100, verset 179. Je suis errant comme une brebis perdue. Verset 176. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je répète, je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Ce psaume est écrit par David. Comment Jésus considérait la foule ? Avec quel regard Jésus, quel regard portait Jésus sur la foule, sur les hommes et les femmes qui l'entouraient ? De compassion, certes, mais comment il voyait les hommes et les femmes qui étaient en face de lui ? Matthieu 9, 36 nous dit « Jésus voyant la foule, effectivement, il fut ému de compassion pour elle. » Et aussi aujourd'hui, de la même manière, Jésus, quand il regarde chacun, pas seulement une vue d'ensemble, mais chacun en particulier, il est ému de compassion. Ça veut dire qu'il partage ce que tu vis au plus près, tes préoccupations, tes souffrances, tes inquiétudes, tes aspirations. Mais il est dit « il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme des brebis. » Jésus nous apparente à des brebis. Alors, est-ce un hasard ? Est-ce une simple note d'humour ? Parce que Dieu n'est pas dénué d'humour. On le voit avec le prophète, avec l'ânesse, et de différentes manières, même dans nos vies, comment Dieu use d'humour. C'est jamais un humour déplacé. Mais Dieu est un Dieu de joie. Mais s'il nous apparente à une brebis, ce n'est pas un hasard. C'est que réellement, nous avons les particularités, beaucoup de particularités de la brebis. Alors intéressons-nous justement aux caractéristiques de la brebis, parce que nous en sommes. Nous en sommes. Tout d'abord, ce qu'on peut dire de la brebis, c'est qu'elle est, très très forte, comme un lion, comme un ours. Non, elle est très vulnérable. Elle est très vulnérable, même si parfois avec tout son pelage, sa laine, on peut avoir l'impression qu'elle est imposante et haute, mais elle est très vulnérable. Elle a très facilement peur, elle est très vite paniquée. Et si elle a peur, si elle est paniquée, elle risque de se précipiter, de courir dans le danger, même s'il y a un précipice, elle peut courir directement. Donc elle est très sensible, très vulnérable à la peur, à la frustration aussi. Elle réagit très mal à la frustration. Elle a besoin que ses besoins soient satisfaits. Elle réagit très mal également à la faim. Au prédateur, elle est sans défense, on peut le dire. Elle peut être très facilement tuée par ses ennemis. Elle a peu de moyens d'autodéfense. Elle en a quelques-uns, mais elle en a très très peu. Et puis, elle n'est pas réputée pour être, entre guillemets, fut-fut. C'est pas le plus intelligent des animaux. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus intelligents que la brebis. Autre particularité, c'est qu'elle est facilement retournable. Elle est vite jetée sur le dos. Vous voyez ? Elle est vite renversée. Et le problème, c'est que souvent, elle est incapable de se redresser toute seule. Et donc, elle risque de mourir de froid, mourir de faim. Elle risque d'être vulnérable aux attaques. Ça me fait penser quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, à Corinthiens 10-12, il dit « Ainsi donc que celui qui croit ou qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. » Effectivement, si on se prend pour des gens invulnérables, des gens forts, des gens que rien ne pourra déstabiliser, alors nous sommes en danger. Et ce texte et la parole de Dieu nous invitent au contraire à nous considérer comme des brebis, avec ses particularités. C'est-à-dire que nous pouvons... Effectivement, la brebis, elle a quatre pattes, elle peut aller très très vite. Et nous aussi, on peut aller très très vite dans telle ou telle direction. Mais on peut vite être retourné. Et là, du coup, on est comme bloqué. Vous voyez la brebis, les quatre fers en l'air ? Et parfois, c'est notre cas. Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Parce qu'il aura du mal à se relever. Elle est aussi très vulnérable parce qu'elle n'a pas un bon sens de l'orientation. Elle peut se perdre seule, mais n'arrivera pas seule à retrouver son chemin. Il y a des animaux qui ont un sens de l'orientation et un odorat beaucoup plus développé. Les chiens, les fauves, par exemple. Le tempérament de la brebis. Apparemment, elle est assez jalouse. Elle est concurrentielle aussi, pour la domination. On s'imagine pas, ça faudrait quitter brebis, mais entre elles, vous voyez, il y a souvent une concurrence, une jalousie. Et ça me fait penser à ce passage quand Paul parle aux Galates, Galates 5, 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Son tempérament aussi, c'est un tempérament grégaire, c'est-à-dire qu'elle est, elle a besoin de vivre en groupe. Ça nous parle aussi de dépendance et elle est influençable. Elle a besoin d'avoir un groupe auquel elle puisse s'identifier. Elle est influençable et on peut dire d'un point de vue humain que l'être humain aussi, finalement, est influençable au mode, dans tous les domaines, consciemment ou même inconsciemment, et même dans le domaine religieux. Certaines églises peuvent chercher à copier d'autres églises. Il peut y avoir des courants de mode. Et on va chercher à faire parce que ça se fait à tel endroit. C'est humain. Son tempérament, elle a aussi très peu de discernement dans ses choix de la nourriture. Ouais, elle peut très bien prendre des plantes toxiques. Parce qu'à la faim, donc elle va là ou là, elle voit ça, elle trouve que c'est beau, elle en prend. Si c'est de l'eau, c'est pareil, elle a soif. Elle va boire, mais ça peut être de l'eau sale, ça peut être de l'eau qui va lui faire du mal, qui peut la faire mourir. Ça me fait penser, vous savez, à ce texte dans 2 Rois 4, 39, où il est dit qu'il y avait les fils des prophètes, et puis il y a l'un d'eux, c'était un temps de famine, et l'un d'eux, il est parti pour cueillir des plantes, pour faire un potage. Et puis là, bah, il a trouvé quelque chose qui avait l'air d'être... Il est dit que ça, c'était un type de plante qu'on ne connaissait pas. Mais il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer, et puis ça va être intéressant, on va mettre un peu de goût, on va assaisonner un petit peu la soupe, et puis ça va peut-être bien nous nourrir. Et donc il a pris des coloquintes, il l'a mis dans son vêtement, il a coupé ça en morceaux parce qu'on ne connaissait pas ce que c'était, et puis il a mis ça dans le pot du potage. Et puis quand les fils des prophètes ont commencé à en prendre, ils ont dit la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Et il a fallu que le prophète Élisée fasse un miracle avec de la farine qu'il jette dedans. Effectivement, la vie est redevenue. Est revenu et ils ont pu en manger. Mais vous voyez, c'est un peu la brebis, si elle va toute seule comme ça, elle peut aller à tel endroit parce que ça lui semble bien. Elle ne voit pas forcément le danger ou le mal. Mais elle est en danger de mort. Et elle a besoin de quelqu'un qui puisse la guider. Elle est têtue aussi, la brebis, il paraît. Oui, elle est têtue. Elle insistera à aller là où elle veut, même si c'est mauvais ou c'est dangereux pour elle. Elle va continuer, même si elle va dans le mur, elle continue, parce que c'est un peu son mode de fonctionnement. Autre particularité, c'est qu'elle n'aime pas être cisaillée, elle n'aime pas être nettoyée. Alors, ceux qui ont les cheveux raides ne peuvent pas comprendre, mais je pense que quelques-uns aussi peuvent comprendre, notamment pour les enfants, quand on a les cheveux crépus, c'est toute une affaire de décrépir et de passer le peigne. C'est bien plus facile de laisser pousser comme ça. Et moi, j'ai des souvenirs, notamment par rapport à mon frère qui avait les cheveux plus crépus. C'était toute une comédie pour lui passer pour ma mère, pour lui passer le peigner. C'était toute une comédie. Alors, elle attendait quelquefois quelques jours, et puis à un moment donné, il fallait y aller. Et il y avait des nœuds, il pleurait. C'était toute une comédie. Ceux qui ont les cheveux raides ne peuvent pas comprendre. Mais les autres peuvent comprendre. Et ça, ça m'a fait penser, finalement, à la sanctification, finalement. Vous voyez ? Au cisaillement. Parfois, on n'aime pas non plus être repris, être taillé. C'est comme la vigne quand elle est taillée. Certainement, ça lui fait mal. Et nous non plus, on n'aime pas être cisaillé. On préférait pousser un peu librement. Et quand là, il commence à y avoir des tailles, des coupes, il y a le peigne qui vient dans nos vies, le peigne de la sanctification. Alors, ce n'est pas forcément Dieu qui vient directement lui-même, tel qu'on peut s'y attendre, mais ça va être par les circonstances, par des collègues de travail, par un frère, par une sœur dans l'église, par telle ou telle chose, qui viennent là comme, vous voyez, tirer sur nos nœuds. C'est vrai, d'ailleurs, Hébreux 12 en parle, que c'est... La correction, c'est toujours au départ un sujet de tristesse. Qui aime être corrigé ? Qui aime être repris ? Personne, naturellement. Personne, on n'aime pas. On n'aime pas. Et la brebis non plus. Mais pourtant, c'est nécessaire. Parce qu'en même temps que le berger peut passer, qu'il passe là, entre ses genoux, qu'il passe sa main, il peut voir si elle a une blessure, il peut voir, vous voyez, s'il y a telle ou telle, peut-être telle petite bête qui vont être là, la faire folayer, ou qui vont l'amener à dépérir, à ne plus manger ou autre. Donc c'est nécessaire de passer sous la main du bon berger. Et là, il va peut-être retirer les nœuds et ça fait mal. Ça fait partie aussi de l'œuvre de la sanctification. Ses besoins fondamentaux. Elle a constamment besoin d'eau fraîche. Ça nous parle du besoin de renouvellement constant dans la vie de l'esprit. On ne peut pas, en tant que chrétien, se contenter d'une eau stagnante. Nos besoins fondamentaux, c'est d'une vie de l'esprit. On est recréé pour ça. Ça, c'est le plus profond de nous-mêmes. On ne peut pas se contenter d'une vie simplement religieuse. On a besoin de cette vie de l'esprit, de ce bouillonnement intérieur. Éphésiens 5 nous dit « Soyez au contraire tous remplis de l'esprit. Entretenez-vous, c'est notre part, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Tite 3.5 nous parle du renouvellement de l'esprit. Et l'Église va nous aider en cela. Mais c'est à nous, dans notre vie personnelle, à l'épuiser. Il est dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Mais ils ne sont pas seulement pleins d'eau quand nous nous rassemblons. C'est vrai que là, c'est comme des torrents, et c'est merveilleux. Mais quand nous sommes là seuls dans notre communion personnelle, dans notre vie de tous les jours, le ruisseau de Dieu, il est encore plein d'eau. C'est à toi d'aller puiser le renouvellement, le ressourcement. N'attends pas seulement que tout vienne de l'Église, mais dans ta part personnelle, il y a un ressourcement à retrouver. Il y a un rafraîchissement à recevoir de la part du Seigneur. D'ailleurs, sa meilleure source d'eau à la brebis, c'est la rosée du matin. Et ça nous parle de l'onction du matin. Quand on se lève le matin, qu'on prend un temps avec le Seigneur, c'est peut-être l'un des meilleurs moments où là, on peut être renouvelé pour notre journée. On va recevoir cette onction fraîche. Ça peut être le soir aussi. Elle a également constamment besoin d'herbes fraîches. Ça veut dire qu'elle a besoin d'une nourriture qui est fraîche. Elle ne peut pas se contenter de la nourriture d'hier. Et pour nous aussi, on a besoin d'une nourriture fraîche. On a besoin de la parole de Dieu, du pain de vie. D'ailleurs, la manne, c'était chaque jour, il fallait qu'ils y aillent. Et ils ne pouvaient même pas faire de réserve, parce que ça périssait. Et nous, on ne peut pas vivre sur les acquis d'hier. Fut-il glorieux ou merveilleux, mais il y a une nourriture pour nous dans la circonstance que tu vis, mon frère, ma sœur. Il y a une nourriture pour toi. Et une nourriture fraîche. Tu as peut-être l'impression d'être dans un désert où il n'y a aucune eau. C'est sec. Mais même dans ce désert, Dieu a mis une fontaine. Le Seigneur est présent. Il y a des ruisseaux qui sont là pour te rafraîchir. Relis le psaume 1. Relis le psaume 1. Médite le psaume 1. Elle a besoin également de sécurité. Elle a besoin de beaucoup de sécurité. Elle a besoin d'habitude. Sinon, elle est vite déstabilisée si on la bouscule dans son fonctionnement. En fait, c'est une créature d'habitude. Elle a besoin d'entrer dans des ornières. Elle a besoin de repères. Alors ça, on n'aime pas forcément ça. Mais finalement, on a chacun des fonctionnements. Et on est chacun attaché à nos modes de fonctionnement. Et si on nous change nos fonctionnements, eh ben on est vite perdu finalement. On est vite déstabilisé. Et c'est très humain, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Même le plus adaptable au milieu de nous, Dieu n'aura pas de difficulté à le déstabiliser rapidement en changeant ses points de repère. C'est notre nature. Et ça, il faut l'accepter. Donc finalement, quel est son plus grand besoin ? En lisant tout ça, quel est son plus grand besoin ? Eh oui, c'est ça, elle a besoin d'un berger. Elle a absolument besoin d'un berger, c'est pas accessoire. C'est pas un chat. Les chats, ils ont besoin d'un maître ou d'une maîtresse, simplement, bon, pour la nourriture, pour le ronron, pour la caresse, mais on dit qu'ils sont indépendants. Certains sont plus ou moins affectueux, ou plus ou moins... Mais ça reste des animaux quand même assez sauvages. Autonomes, indépendants. C'est d'ailleurs pour ça quelquefois qu'on les aime bien. Parce que du coup, on aura moins besoin de s'occuper d'eux. Mais la brebis, ce n'est pas le cas. Elle a continuellement besoin de soins, continuellement besoin de soins. Elle est complètement dépendante du berger pour être sécurisée. C'est l'influence qui la sécurise le plus. Rien ne la sécurisera plus que la présence du berger. Le berger pour la nourrir, pour la diriger, pour la soigner, pour être protégée, à commencer par elle-même, de ses folies, de ses impulsivités, de la protéger contre ses congénères, les autres brebis, qui certaines à un moment pourraient être plus fortes, ou belliqueuses, la protéger contre les éléments extérieurs, environnementaux, contre les ennemis, les bêtes sauvages. Elle fait partie des parmi les animaux de bétail qui ont le plus besoin de soins. Le plus besoin de soins. On peut dire qu'elle est totalement dépendante du berger pour tous ses soins. Et David était berger dès sa jeunesse. C'est lui qui a écrit ce psaume. Il avait donc une grande connaissance des brebis, de leur psychologie, de leur personnalité. Il en connaissait toutes les richesses, mais aussi tous les travers. Ces traits de caractère qui sont si peu avantageux. Il les connaissait bien. Et pourtant, et ça c'est quand même extraordinaire, il n'hésite pas à s'identifier à l'une d'elles. Lui, David, le grand roi loin de l'Éternel, dans son identité profonde, il se reconnaît comme une simple brebis. Et pourtant, quelle fonction ? Quelle fonction ? Il est roi. C'est loin de l'Éternel. Et quel roi ? Sur quel peuple ? Et pourtant, dans son identité profonde, il se reconnaît comme brebis. Psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, que tu peux vivre ça aussi. Parce que si l'Éternel est le berger, était le berger de David, il est aussi ton berger. De la même manière. David, quand on voit la vie de David... Par où il est passé par toutes sortes de turbulences. Tu peux te dire, je passe par une tempête, comme on l'a entendu, par des difficultés comme, au travers desquelles je ne suis jamais passé. Mais David regarde par où il est passé, et pourtant, il peut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans ce que tu traverses, tu peux dire aussi, j'ai l'Éternel comme berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que je ne passerai pas par la vallée de l'ombre de la mort, par les difficultés, par le froid, par la peur, par toutes sortes de choses. Mais je peux dire, si j'ai même ma confiance dans le Seigneur, qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. C'est une réalité. Amen. Simplement, il faut que tu aies confiance. Tu dis, Seigneur, dans ce que je traverse, ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Même s'il faut que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce qui est important, c'est que tu sois avec moi. Il vaut mieux traverser la vallée de l'ombre de la mort avec le Seigneur que d'être dans des verts prairies, à gambader, sans le Seigneur. T'es bien plus en sécurité dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que c'est pas la mort, avec le Seigneur c'est la vie, que de te trouver là, libre, à courir, en disant oh, « ça va bien, je suis libre je... », si t'es pas avec le Seigneur. Et pour nous aussi, c'est important de nous reconnaître comme des brebis du Seigneur, avec les particularités qui vont avec, la dépendance, la vulnérabilité, même si nous cherchons à les gommer. Alors si on cherche à les gommer devant les autres, c'est humain. Devant Dieu, il ne faut pas qu'on cherche à les gommer. Faut pas qu'on s'illusionne. D'abord, on n'illusionnera pas Dieu, et il ne faut pas qu'on s'illusionne nous-mêmes. David, lui, ne s'illusionnait pas. Il dit, « Moi, tu es mon berger, Seigneur. » Et je veux rester attaché à toi. Je suis comme une brebis. Je suis comme une brebis. Et mon frère, ma sœur, tu es comme une brebis aux yeux de Dieu. Et c'est la réalité. C'est la réalité. La clé pour nous, en tant que brebis du Seigneur, c'est d'accepter que Jésus est la seule réponse à tous nos besoins. La seule réponse, la seule solution à tous nos manques, à toutes nos failles, qui suscitent souvent tellement d'angoisse, tellement de luttes, de combats dans nos cœurs. Comme la brebis, elle est vite effarouchée. Il nous faut accepter de prendre le joug du Seigneur et de dépendre de lui, complètement et en toutes circonstances. Et en toutes circonstances. Il a pourvu pour nous de façon admirable en tout point ce qu'il a fait à la croix, mais il a pourvu en nous mettant l'instinct grégaire, le besoin d'être en groupe. Il nous a donné une église, une famille spirituelle. Il nous a donné, il est notre berger, il nous a aussi donné des conducteurs, des bergers d'un point de vue humain, dont nous avons besoin. Je suis errant comme une brebis perdue, je suis errant. Et finalement, l'errance, qu'est-ce que c'est? L'errance, c'est s'écarter, c'est s'éloigner de la vérité, c'est se tromper, c'est le sens littéraire. C'est la même racine que le mot erreur, finalement. L'erreur, c'est quoi? C'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Personne qui est errant, c'est quelqu'un qui va d'un côté, de l'autre, qui n'est pas fixe, qui est vagabond, qui est comme perdu, qui ne parvient plus à retrouver son chemin. Et finalement, c'est la situation de tous les hommes, de toutes les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Elles sont perdues. Et du coup, parce qu'elles sont perdues, loin du berger, loin du troupeau, elles sont errantes. Mais c'est aussi le cas de toute brebis du Seigneur qui s'écarte du Seigneur et qui s'écarte du troupeau. Elle retourne dans cette situation, elle redevient ainsi, errante. 1 Pierre 2, 24 nous dit, en parlant de Jésus, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ésaïe en parle, nous étions tous errants, Ésaïe 53, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, chacun gambadait dans ses voies d'égarement. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à la brebis, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus s'est identifié à nous en tant qu'homme, mais jusque dans notre identité de brebis. Mais à la différence de nous, c'est que lui ne s'est pas égaré. Il a accompli parfaitement le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il s'y est soumis. Dans les moindres détails, et cela pour nous, par amour. Tout cela pour nous ramener au Père, pour ne plus qu'on soit égaré. Non pas qu'on ne traverse pas les difficultés, mais pour ne plus qu'on soit égaré. Paniqué. Pour nous guérir de nos errances, Jésus est mort à la croix. Dans ses meurtrissures, mon frère, ma soeur, tu es guéri. Amen. Cherche ton serviteur. Voilà ce qu'il dit, cherche ton serviteur. C'est étonnant. Le fait de servir le Seigneur ne nous épargnerait-il donc pas de nous trouver un jour perdus dans une situation comme en perdition? Est-ce que ce n'est pas incompatible? On peut dire, à partir du moment où on sert le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, qu'on marche avec lui, normalement, ça y est, maintenant c'est fini, on risque plus jamais d'être perdu. Vous pouvez être un très bon conducteur avec un bon sens de l'orientation, à un moment donné, vous pouvez aussi vous trouver perdu sur la route, même si maintenant il y a les GPS. Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, car on demeure avec les caractéristiques de la brebis. Parce qu'aussi, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et donc, parfois, on avance sur le principe de la confiance. Et à un moment, parfois, on ne voit plus. Jean-Baptiste, à un moment donné, quand même le précurseur du Seigneur, il a été emprisonné, il nous dit qu'il était emprisonné à un moment pour sa foi, pour son intégrité également. Et dans sa prison, il va envoyer ses disciples vers Jésus, il va dire « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre? Il a eu un moment de doute, on va dire même de crise de foi. Il s'est demandé si Jésus était vraiment le Messie, si c'était lui qu'on attendait. Il s'est posé cette question-là. En prison, pour la foi. Et peut-être tu te trouves dans une forme de prison, pour ta foi. Tu as voulu obéir au Seigneur et tu te trouves comme dans une prison, tu ne comprends plus. Et tu te dis, mais... Seigneur, je suis complètement perdu. C'est arrivé à Jean-Baptiste. c'est arrivé à d'autres. La brebis perdue n'est pas simplement celle qui ne connaît pas le Seigneur ou celle qui volontairement l'a quittée ou l'a abandonnée. Ça peut être aussi chacun d'entre nous qui marchons avec nos incertitudes, notre confiance qui parfois est vacillante. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'a pas laissé Jean-Baptiste à vide, il lui a donné la réponse. Et comment il lui a donné la réponse? Eh bien voilà, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il lui a parlé par sa parole. Et les disciples sont revenus, ils ont encouragé, ils ont apporté une parole de certitude dans le cœur de Jean-Baptiste, qui lui a permis de dire, oui Seigneur, si je suis là, ce n'est pas un hasard, je ne me suis pas trompé de plan. Seigneur, tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas même si je me trouve dans la prison. Jésus n'a pas libéré, il aurait pu quand même. Hein. Il y avait des liens spirituels très forts et des liens familiaux. Il avait le pouvoir, il aurait pu libérer Jean-Baptiste quand même de sa prison. Il aurait pu le faire, non? Il ne l'a pas fait. Il lui a simplement dit, quelque part, c'est bien bon et fidèle serviteur. T'es dans ma main. Continue. Moi, je ne t'abandonne pas. Donc, mon frère, ma sœur, si tu vis ces moments-là, des moments de doute, des moments d'incertitude, parfois même d'incrédulité, tu es normal. Ça, c'est arrivé à d'autres et ça t'arrivera peut-être d'autres fois. De te trouver dans une situation comme ça. Parce que nous ne sommes que des brebis et que nous avons besoin du Seigneur. Et c'est peut-être l'occasion de resserrer les liens avec le Seigneur, de te rapprocher encore plus de lui. Cherche ton serviteur. Cherche. Je me suis posé la question, parce que David se sent perdu, comme perdu en danger, il demande à Dieu, son berger, de venir le chercher. Et une question m'a taraudé. Pourquoi le berger, dans la parabole de la brebis perdue, est parti à la recherche de sa brebis qui était perdue, en laissant les 99 autres en sécurité, et que, effectivement, le père de la parabole du fils prodigue, lui, n'est pas parti, il est resté. Il l'a laissé partir, premièrement, et il n'a pas été le chercher. C'est étonnant. Est-ce que c'est effectivement parce qu'il n'aimait pas le fils? Certainement pas, bien au contraire. Mais simplement parce que le fils, et là c'est important, le fils n'est pas parti par erreur. Il n'est pas parti par inadvertance. Il n'est pas parti sous impulsion comme ça, par tempérament de brebis. Non mais c'est après une mûre réflexion, il a réfléchi. Il avait tous les éléments en main, il connaissait la maison du père, il connaissait le Père. On peut dire qu'il a abandonné le Père. Il a abandonné la maison du Père en toute connaissance de cause, en conscience et donc en responsabilité. Il ne s'est pas égaré. Il est parti. Dès lors, pour le Père, vouloir le retenir ou même chercher à le ramener aurait été inutile, ça aurait été vain. Parce que le Fils était résolu en lui-même. Il était déterminé à suivre son chemin. Et vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un qui veut faire quelque chose, absolument. Puis Dieu nous respecte. C'est l'amour dans la liberté. Donc c'est le cœur meurtri que le Père a laissé partir son fils, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand des chrétiens quittent en connaissance de cause, après avoir goûté les bienfaits de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la communion fraternelle, après avoir connu la parole de Dieu, quitte le chemin de la vérité. C'est le cœur meurtri que Dieu les laisse aller. Et je dirais même aussi que l'Église les laisse aller. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne veut pas. À partir du moment où il est adulte, évidemment. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime et la preuve de son amour est évidente, elle est criante. Il a donné son fils Jésus. On va dire qu'il a laissé lui, Jésus, Dieu le Père, il a laissé son fils aller. Il l'a laissé aller sur la terre. Il l'a laissé aller jusqu'à la croix, par amour. Il ne l'a pas retenu, simplement pour que nous soyons sauvés, que nous soyons ramenés. Voilà la preuve de l'amour de Dieu. Il a laissé son fils aller. Non pas dans le chemin de la désobéissance, mais dans le chemin de l'obéissance. Parce que c'était le seul moyen de nous sauver, de nous ramener au Père. Que nous ne soyons plus des brebis égarées, perdues, déstabilisées. À nous d'accepter, il a tout fait pour nous, à nous d'accepter son amour, de l'accueillir, d'y répondre. Il ne peut pas nous forcer. Hébreux 10, 26 nous dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » C'est comme s'il est dit « Il aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, outragé l'Esprit de la grâce. » Hébreux 10, 26, 29, c'est quand même dans le Nouveau Testament. Jésus a absolument tout accompli. Si volontairement on méprise le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait. Il n'y a plus de sacrifice. Il y a la possibilité pour nous de revenir. Mais Dieu ne peut plus, elle ne peut pas nous chercher. On a tous les éléments. C'est pour ça que le Père n'a pas été chercher le Fils prodigue. Mais par contre, il l'a toujours attendu. Et le Père sera toujours là pour nous attendre. Toujours. Mais peut-être, si tu es dans la situation, et c'est une parenthèse, si tu es dans la situation du Fils prodigue, que tu es parti, tu es loin de Dieu. Tu as décidé dans ton cœur de ne pas suivre le Seigneur, mais d'aller dans le monde. Même si tu es là, dans ton cœur, tu es complètement ailleurs. Tu as pris position. N'attends pas que le Seigneur aille te chercher, parce que tu as tous les éléments. Il t'aime, il a tout accompli, mais c'est à toi de revenir dans une attitude de repentance et de revenir sur le terrain de la bénédiction. Dieu n'est pas allé chercher Saül, et même David quand il a commis adultère, qu'il a commandité un meurtre, Dieu n'a pas été le chercher pour lui dire « Mon petit David, je t'en supplie, reviens, tu es perdu ». Non, il est venu à lui par le prophète Nathan, avec une parole de jugement sur lui et sur sa famille. Et parce que David avait un cœur pour Dieu, il s'est repenti et il est revenu sur le terrain de la bénédiction. Pour les disciples, Jean 6, à un moment donné, Jésus va aller dans les profondeurs, il va commencer à parler par rapport à son sacrifice, par rapport à son corps, qui est une nourriture, son sang qui est un breuvage, etc. Il est dit à un moment donné, Jean 6, 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Jésus n'a pas cherché à retenir. Il explique les choses très clairement. Son amour est démontré, mais il ne cherche pas à retenir, à forcer. Jean 13, exemple de Judas. Il est dit que dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Il n'a pas cherché à le retenir. Judas était déterminé. Mais jusqu'au bout, Judas aurait pu revenir au Seigneur. Il n'est pas revenu. Même l'exemple de Pierre, qui abandonna comme les autres disciples maîtres et qui le renia à 3 reprises. Au moment où le coq va chanter, la 3e fois... Jésus va se contenter de croiser le regard de Pierre. Il ne va pas lui dire « Pierre, reviens, viens, viens !» Non, il croise simplement son regard. Et il dit que Pierre, il va rentrer en lui-même, il va pleurer, il va se repentir. Il n'a rien fait, Jésus, pour le ramener, il a simplement croisé son regard. Il a croisé son regard et le Seigneur cherche à croiser ton regard. Là où tu es. Mais peut-être c'est toi qui détournes le regard du Seigneur. C'est un regard d'amour, de compassion. Même Démas, de Timothée 4, 10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il n'est pas dit que à la fois l'apôtre Paul ou Jésus est parti courir après lui. Non, parce que Dieu nous laisse sur le terrain de la liberté. Ça pour dire que nos choix d'abandonner Dieu, sa maison, ne sont jamais anodins. On peut lire la parabole du fils prodigue, on va se dire il est revenu, oui, mais que de souffrance pour lui, que d'humiliation, que de perte, que d'errement, et en plus aucune garantie de retour. Quand on s'écarte du Seigneur, on ne sait jamais si on va revenir, parce que derrière il y en a un qui nous attend, le prince de ce monde, c'est un monde spirituel, et si on quitte le royaume de Dieu, on rentre dans le royaume des ténèbres. Et là, on pourra parvenir facilement. Tout ça pour nous amener à la crainte du Seigneur. On vit des temps de grâce merveilleuses. C'est le temps de la grâce. Le Seigneur nous aime et restons dans sa main. restons dans sa main. Même le départ d'Élimélec et de Naomi, vous savez, dans Ruth, à un moment donné, ils sont partis, il dit, ils sont partis pour le pays de Moab. Il dit, pour un séjour, ils sont partis pour un séjour, ça ne devait pas durer très longtemps. Ils pensaient revenir. Le problème, c'est que le séjour s'est éternisé. Et que de drames. Le père est mort, les deux fils sont morts également. Les belles-filles se sont retrouvées veuves. La mère Naomi, quelle souffrance. Elle perd ses fils, elle perd son mari. La culpabilité qui est liée, elle est partie aussi. L'amertume de son âme, son nom même a été changé. Elle a voulu changer son nom en l'appelant Mara, amertume. L'humiliation du retour à vide. Sa mort spirituelle, elle est revenue dans un état spirituel dramatique. Mais elle est quand même revenue. Rien ne t'empêche, mon frère, ma sœur, de revenir sur le terrain de la bénédiction. C'est toujours, toujours possible. Elle est revenue d'elle-même, mais Dieu n'a pas été la chercher. Dieu n'a pas été la chercher. Elle est revenue d'elle-même. Peut-être tu es dans une situation d'égarement, n'attends pas que Dieu aille te chercher. C'est à toi de revenir. C'est à toi de revenir. Rapidement, revenons sur le cas de la brebis perdue. Cette fois-ci, le berger part à sa recherche. Et d'ailleurs, c'est ce que David demande. Là, il dit, viens, viens me chercher. Et n'attends pas qu'elle revienne. On se trouve dans un autre cas de figure. C'est différent. Il semble que là, elle se soit égarée. La brebis, elle était égarée. Peut-être liée à son tempérament de brebis. Elle n'a pas écouté. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Mais ce n'est pas volontairement. Elle n'a pas quitté la bergerie, elle n'a pas quitté son berger volontairement. Elle a peut-être présumé de ses forces, elle pensait qu'elle avait un bon sens de l'orientation, qu'elle pourrait prendre tel chemin, qu'elle pourrait revenir. Eh bien non, la voilà perdue. Et le berger sait que la brebis est en danger. Que s'il y va, la brebis n'attend qu'une chose, c'est de revenir. Et c'est un autre cas de figure. Peut-être tu es dans cette situation-là. Tu te trouves les quatre fers en l'air. Alors ça peut être les circonstances extérieures, les épreuves de la vie, puis ça peut être aussi une part personnelle, parce que tu as mal réagi, voilà, ou telle chose, tu as pris une mauvaise décision et autres, et tu te retrouves les quatre fers en l'air. Le Seigneur ne va pas te demander là de revenir, parce que tu en es bien incapable de te relever tout seul. Ce qu'il faut pour la brebis, si elle cherche à se débattre par elle-même, c'est qu'elle va s'épuiser. Elle va s'épuiser. Vous savez, c'est un peu l'image, si vous êtes en train de nager et qu'à un moment donné, vous êtes très fatigué, vous n'aurez plus la force de l'arriver loin, vous n'allez pas avoir la force d'aller jusqu'au bout. Et parfois, le meilleur moyen de faire, c'est d'attendre le secours. Et peut-être de crier. Et la brebis, si elle est perdue, elle est dans cette situation, les quatre fers en l'air, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle, belle. Mon frère, ma sœur, belle, belle, crie au Seigneur. Il est là, il attend que ça. Il attend que ça. Belle, le Seigneur n'attend que ça. Parce que le berger, qu'est-ce qu'il a fait ? À partir du moment où l'une de ses brebis s'est trouvée égarée, perdue, il a laissé les 99 en sécurité. Non pas qu'il les a abandonnés, il les a laissés en sécurité. Et il est parti directement pour chercher celle qui était perdue. Et il connaît la voix de sa brebis. Il ne se trompera pas. Et le Seigneur connaît et entend la voix de ton bêlement. Tu peux crier à lui quand tu as malheureux cri. Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses souffrances. Amen. De toutes ses détresses. Qui n'a jamais vécu ça ? Même avec un certain nombre d'années de recul avec le Seigneur, de marche avec le Seigneur, même de service avec le Seigneur, qui ne s'est pas retrouvé dans cette situation, les quatre fers en l'air. Qui ? Ça nous est tous arrivé, et ça risquera de nous arriver encore. Mais il y a cette technique infaillible de bêler. Il ne faut pas se replier sur soi-même et dire « maintenant, c'est fini pour moi ». Il ne faut pas chercher à gesticuler, à chercher à s'en sortir par soi-même. Mais invoquer le secours du Seigneur, il viendra pour nous aider dans notre difficulté personnelle, familiale, professionnelle, ecclésiastique, il viendra pour nous secourir. On s'est mis parce qu'on est des brebis dans telle ou telle situation. Le Seigneur a une solution. Amen. Amen. Il n'est pas dépassé. Nous, on est dépassé parce qu'on n'est que des brebis. Mais Jésus n'est pas dépassé. Alors, il faut nous confier pleinement en lui, pas chercher à tout régler par nous-mêmes. Jésus, il a la solution en main. Amen. Vous pourrez lire dans 2 Chroniques, on ne le lit pas là, mais dans 2 Chroniques 18-31, c'était l'histoire d'un roi Josaphat qui s'est trouvé un peu par inadvertance, par erreur, avec un roi en guerre, Akab, alors qu'il n'avait rien à faire là. Et à un moment donné, il se trouve entouré d'ennemis qui sont là prêts à tirer sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, le grand roi Josaphat, est un homme de Dieu remarquable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié. Vous voyez, il est sur son champ de bataille, il se met à crier. Vous imaginez, dans un temps de guerre, il se met à crier. Vous savez, comme un enfant de 5 ans qui a perdu, il se met à crier. Mais il a crié à Dieu. Et il est dit que Dieu a écarté ses ennemis. C'est merveilleux. Certes, et vous relirez le contexte, c'est intéressant, parce que par le prophète, il a eu des reproches qui lui ont été faits. Mais il lui dira, mais parce qu'il y a des bonnes choses en toi, etc. Dieu est venu à son secours. Dieu est venu à son secours. Et tu peux faire des erreurs, etc. Dieu viendra à ton secours. Amen. Et immédiatement, il viendra à ton secours. Le dernier point, il est dit, car je n'oublie point tes commandements. Car je n'oublie point tes commandements. Je suis errant comme une brebis perdue. Je cherche son serviteur. Car je n'oublie point tes commandements. Et je note un élément important pour que le Seigneur puisse nous retrouver. Rapidement. Avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait trop de dégâts, c'est qu'il faut garder dans notre cœur les commandements de Dieu. Il faut garder sa parole dans notre cœur. Il faut la serrer dans notre cœur. Comme disait le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la balise Argos qui permet à des navigateurs ou à des alpinistes et autres, quand ils sont dans une situation de grand danger, qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, d'appuyer sur un bouton et de déclencher cette balise par satellite. Ça va aller sur un endroit où il y a toutes sortes de calculs et autres, et ils vont pouvoir être repérés et pouvoir être secourus. Pour que le Seigneur puisse nous repérer, intervenir, on a besoin d'avoir cette balise Argos, qui est la parole de Dieu dans notre cœur. Aimer la parole de Dieu, serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Dieu a parlé comment à David quand il était dans son égarement, il lui a parlé par la parole de Dieu. Et Dieu te parlera par la parole, par sa parole. Il te remettra dans le bon sens par sa parole, par une parole prophétique qui correspond à ta situation, à ton besoin à l'instant T. Ne cherche pas forcément des choses par la parole de manière privilégiée. Dieu te relèvera et te remettra d'aplomb. Amen. La parole de Dieu doit être comme une encre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6, 19. En conclusion, une prière à ne pas faire, ou qui restera sans réponse, c'est de demander à Dieu de nous changer, de faire que nous ne soyons plus des brebis. Qu'on ne soit plus sensible, qu'on ne soit plus inquiet, qu'on soit très fort, etc. Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais c'est dans notre faiblesse qu'est notre force. Le fait de réaliser ce que nous sommes et qu'on a besoin d'un berger qui ne manquera jamais pour nous secourir. Donc ne demande pas à Dieu de te changer ta nature profonde. Tu resteras une brebis. Ce n'est pas un péché que d'être une brebis. Ce n'est pas un péché de se sentir perdu, d'être inquiet. Ce n'est pas un péché. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a conçus. C'est pour ça qu'il est venu pour nous aider, pour nous secourir, qu'il vient à nous comme le bon berger. Par contre, une prière à faire, c'est de dire « je suis faible, peut-être, je me perds, je m'égare si facilement, si naturellement, dans mes raisonnements, dans mes réactions, dans mes actes. Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi dépendant de toi, fais que j'ai toujours le réflexe de revenir à ta parole, de t'invoquer, que je ne me referme pas sur moi-même, que je ne cherche pas des solutions humaines. » Mais que je compte sur toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et de réfléchir à deux choses. Suis-je dans la situation du fils prodigue ? Auquel cas, si nous sommes dans ces situations-là, si tu es dans ces situations, il faut que tu reviennes au Seigneur. Le fils prodigue, aussi loin qu'il était, parce qu'il est parti, parenthèse, il est parti très loin. Donc il est parti très loin pour que le père n'aille pas le chercher. Il n'est pas resté à côté. La brebis égarée, certainement, elle s'est égarée, mais elle était à côté. Parce que c'était un peu comme par inadvertance. Mais le fils prodigue, il est parti très très loin pour que le père ne le retrouve pas. Si tu es dans cette situation, sache que tu as la possibilité de revenir. et que Dieu t'attend. Il est capable de te redonner une nouvelle robe, de te restaurer complètement. Et que si tu te trouves dans la situation de la brebis qui est perdue, eh bien invoque le Seigneur. Il va te secourir immédiatement, il va t'aider, il va te relever parce qu'il est là pour ça. Amen.